je m'appelle Lou Andrea Lassalle. Et donc, mes parents m'ont nommée comme ça parce qu'ils apprécient énormément cette poétesse et philosophe russe qui s'appelle Lou Andrea Salomé. Donc, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de créer une sorte de double qui serait Salomé. Et me suis intéressée à ce personnage biblique qui est Salomé, qui apparaît dans tout petit épisode, le festin d'Hérode dans la Bible, dans les évangiles. Et donc, en m'intéressant à ce personnage, j'ai vu qu'il y avait nombreux artistes qui ont travaillé autour de cette image, de ce personnage, en fait.
Le Centre d'art et de design La Cuisine à Nègrepelisse propose ce samedi 4 février l'inauguration de deux expositions parallèles de l'artiste plasticienne Lou Andrea Lassalle. Salomé 3 au Centre d'art de Nègrepelisse et le Club 1 au bar Le Lagardère à Caylus. Nous partons à sa rencontre à La Cuisine à l'invitation d'Yvan Poulain, le directeur des lieux, et Karine Marchand, chargée de communication du mécénat. Et pour commencer de faire connaissance de cet artiste et de ses univers parallèles, écoutons l'hymne du Caylus Culture Club, projet ethnologico-artistique et social que Lou Andrea Lassalle a débuté en 2012.
C'est vos bureaux.
Là, c'est nos bureaux et on traverse la cour pour accéder à tous les autres espaces. Donc, une grande cour à ciel ouvert.
Ça doit être chouette quand même de bosser dans un bel environnement, non, tous les jours.
Ah bah oui, on s'en plaint pas. Hein.
Karine Marchand, chargée de communication de La Cuisine.
C'est un environnement un peu particulier parce que c'est tout vitré, mais du coup, ça crée des interactions directes avec tous les intervenants, les gens qui passent. On est vraiment au contact du public et c'est assez appréciable, en fait, pour pouvoir réagir. Donc là, on vient de rentrer dans la cuisine de La Cuisine, qu'on a renommé les fourneaux pour changer un peu. Donc là, on a un peu le cœur de notre projet.
Elle est très belle, cette pièce, avec ce plan de travail qui est suspendu, comme ça.
Assez grande, oui. Donc, en fait, ça fait un îlot central autour duquel on peut complètement tourner pour faire des ateliers. Donc, nous, on fait des ateliers avec 8 personnes, en général. 8 personnes plus la cuisinière, hein, notre chargée des fourneaux de la cuisine, Camille Savoie. Et en même temps, en fait, c'est un îlot central assez imposant, assez beau, qui s'intègre complètement dans l'architecture des RCR. Et en même temps, ça fait comme une espèce de scénette de présentation quand on fait les vernissages, quand on fait des performances culinaires. On a même fait des performances de musique.
Voilà, et puis de chaque côté, il y a ces grandes baies vitrées qui permettent de traverser, d'avoir la vision qui se pose très très loin derrière les arbres qui sont beaucoup balayés par le vent aujourd'hui.
Et oui, on a la chance, en fait, au pied du château, il y a l'Aveyron qui passe. Et donc, on a une petite île qui est formée aussi par un petit cours d'eau, quoi, juste en bas. Donc, avec une prise sur l'Aveyron, on est au contact de la nature d'un côté et au centre-ville de l'autre. C'est assez sympa, mais c'est vrai que les architectes avaient fait exprès, en fait, de faire des grandes baies vitrées de ce côté-là pour convoquer un peu le regard, en fait, et toute la nature à l'intérieur.
Alors, qu'est-ce que c'est cette pièce derrière, là, donc il y a une sorte de... cloison. Ah, mais non, c'est un escalier carrément qui descend.
Oui, ça, c'est pour les locaux techniques.
D'accord.
Voilà, il y a un peu de locaux techniques en dessous, mais c'est vrai que sinon, tout est à vue. On est sur un étage. Et là, on passe dans la salle d'exposition. Donc ça, c'est assez marrant, en fait. On a juste, en fait, une porte à galandage entre la cuisine et la salle d'expo. Mmh. Qui permet de les mettre complètement en cohésion, donc des fois de finir l'exposition du côté cuisine. Et là, quand on fait les buffets de vernissage, en fait, d'ouvrir carrément l'espace du côté où j'ai ma collègue et qui fait toujours... Alors, c'est pas vraiment de la performance culinaire, on peut pas appeler ça comme ça, mais c'est quand même un buffet dont les aliments sont traités par rapport à ce qui se passe du côté de la salle d'exposition.
Là, c'est en cours de montage. Hein. Il y a une espèce de planète suspendue façon Petit Prince. Il pourrait y avoir le Petit Prince qui se pose dessus, là.
Hein. Elle a un univers très onirique, ouais, où elle va mélanger donc, des références architecturales, des références mythologiques, plein de choses. Elle crée des personnages en s'inspirant aussi de sa famille, hein, ça, il faut le savoir. Et là, l'exposition, ici, elle s'appelle Salomé 3. Parce qu'elle numérote ses expositions. Et Salomé, en fait, c'est un peu un personnage qui fait écho à l'artiste, en fait. Parce qu'elle s'appelle Lou Andrea Lassalle. Et donc, en référence à Lou Andrea Salomé, donc l'écrivain, et poétesse, donc, qui, en fait, a inspiré son prénom.
D'accord.
Il faut le savoir.
Alors, pendant qu'on parle, c'est rigolo parce qu'on les voit arriver dans le vent. Ils traversent cette cour de l'autre côté de la baie vitrée. Ils vont rentrer, ça fait un peu de bruit. Hop, on va entendre le vent. Non, pas trop, ça va. Et voilà.
Yves Andrea, donc l'artiste invité. Alors, tiens, voilà.
Ben on était devant votre installation en cours.
Oui. Il manque plus grand-chose, mais en cours.
Fait une proposition à la cuisine, j'ai imaginé vraiment une installation qui serait avec des matériaux bruts, qui serait comme un chantier sur lequel on viendrait, comme un chantier de maison, pas encore fini, mais que le chantier serait lui-même pensé en tant qu'esthétique. Donc j'ai travaillé ça entre, il y a le château qui a son jardin et ses taupières derrière, enfin son environnement de château. Une possibilité, un devenir, un fictif dans les environnements 3D, qui est aussi un jardin à la française, aussi avec des matériaux qui sont plutôt du béton, du gravier, et l'installation elle-même sur laquelle on peut marcher et se déplacer et avoir différents points de vue, qui elle est en parpaing, bâche et bois brut.
D'accord, moi j'étais persuadé que vous étiez en train de faire un étang parce qu'il y a du polyane au fond.
Ça va être rempli d'eau. Et là, on va pouvoir jouer avec les reflets puisqu'on travaille sur autant le noir des tôles et les murs. En fait, c'est ce muret qui fait appel à ce muret, ces reflets-là qui vont venir se refléter dans le bassin, qui va vraiment créer comme une sorte de trou, de vortex au milieu de tous ces matériaux qui vont se retrouver dans le bassin au final et qui vont créer une sorte de miroir, de fosse, de nouvelles possibilités dans tous ces reflets.
Il faut dire qu'on a une salle d'exposition très particulière, en fait. L'espace d'exposition est complètement vitré, comme la cuisine qu'on avait vue avant. Et donc, ça crée des jeux de reflets entre le paysage extérieur, le paysage intérieur. Et donc, mettre un bassin au milieu de tout ça, ça va recréer un jeu de reflets. Ça va vraiment faire écho à la pièce, ça va être très intéressant.
Monsieur le directeur, qu'est-ce qui vous a donné envie d'inviter l'artiste ici à la cuisine ?
Ce que je trouve assez fascinant chez Lou Andrea, c'est qu'il y a deux choses en fait qui viennent se télescoper.
Yvan Poulain, directeur de la cuisine.
Un univers qu'on va dire fantastique, mais qui n'est pas étranger à la production artistique en général. Hein. C'est, on le voit d'ailleurs ici dans cette installation, hein. C'est quelque chose qui appelle beaucoup de décors, de mise en scène. Il y a quelque chose de presque un peu maniéré dans ces images et ces dessins. Et tout ça est, est plein de références, hein, puisque par exemple sur ce bassin, on pense effectivement au jardin classique à la française, au palais, cette lune qui fait aussi penser dans son aspect bricolé aux lunes de Méliès hein, dans ses films. Donc ça renvoie à tout un imaginaire hein, assez fort. Donc, et Lulu Andrea travaille vraiment avec ce matériau artistique. Et donc ça, c'est, j'allais dire, ce domaine de la fiction, de l'irréel, hein, de l'imaginaire, qui est très fort dans le travail de Lulu Andrea. Mais il ne travaille pas tout seul, cet imaginaire. Et justement, ce qui est très troublant, c'est qu'elle a réussi à incarner cet imaginaire dans son réel à elle, dans son quotidien. Et cette espèce d'imbrication à la fois de la famille, des proches, des amis, et avec le Keglus Culture Club de son village, de ses histoires, pour lequel elle crée une espèce de confrérie étrange, et donc mêle fiction, réel, détournement de pratiques que l'on peut trouver justement là où elle est, c'est-à-dire... puisqu'elle est originaire de Keylus, donc sur son terrain. Et cette espèce de canevas, là, moi, j'ai peu vu ça. Hein, où c'est vu d'un point de vue un peu ethnologique ou photographique, comme chez Charles Frégé, par exemple, qui est un photographe français, qui s'est beaucoup intéressé, justement, aux costumes et qu'on va retrouver dans des micro-sociétés pour des rites, etc. Mais c'est pris à la fois presque d'un point de vue documentaire, là, qu'elle puisse jouer de ça, détourner, créer quelque chose de singulier avec ce mélange-là. Ça, c'est vraiment assez étonnant, fascinant, et je pense que c'est ce qui m'a vraiment assez séduit d'entrer dans le travail de Lulu Andrea.
Est-ce qu'on doit forcément tourner autour ou est-ce qu'on peut le traverser, monter dessus? Moi, j'aimerais être avec vous au milieu, là. J'aimerais bien que vous m'expliquiez un ou deux choses et que vous me décrivez. Voilà. Alors, décrivez un petit peu. Alors, donc, on est sur des parpaings. Hein.
C'est ça. On est sur des parpaings qui sont agencés, du coup, pour créer une scène. Ici, il faut imaginer qu'il y aura de l'eau jusque-là. Donc, on a une sorte de pas japonais qui sont, sur lesquels on peut aussi aller. On est à la surface de l'eau. Donc on a différents points de vue, on a aussi une autre vision en fait sur le paysage, puisqu'on retrouve la rivière de chaque côté. Et en fait on aura aussi au milieu, la lune coule, c'est une fontaine, elle va aussi s'écouler. Du coup on a vraiment une autre vision de l'environnement. Il faut savoir que on peut aussi marcher sur la passerelle là, donc on peut autant se mettre en scène que s'observer, c'est autant... un jeu de chorégraphie, le visiteur peut se chorégraphier, on peut s'amuser autour. Enfin, c'est autant une scène qu'une installation, qu'un lieu de spectacle.
Et une fois qu'on est là, donc on est sur une scène, mm-hmm. Derrière ce serait quoi? Les coulisses, ce serait un château?
Exactement.
Ce serait quoi?
Oui, oui, c'est pour ça qu'on a... que derrière, en fait, j'ai permis qu'on mette, qu'on voit, en fait, comment tiennent les choses, en fait, et que derrière, c'est vraiment l'envers du décor. En plus, on peut voir que, donc, les panneaux de plexiglas deviennent, totalement blancs. On a les contrepoids, en fait, qui vont nous faire tenir tout l'ensemble du décor, qui sont visibles et qui ne m'embêtent pas du tout de... montrer, oui, puisque pour moi c'est aussi important qu'on ait autant la magie que les grosses ficelles. On parlait de Méliès tout à l'heure, effectivement, il y avait une vidéo, mais en fait tout l'envers du décor m'intéresse énormément et la technique et la mécanique.
Et là, donc on est devant une photo,
non, c'est un
montage, une peinture.
C'est un environnement 3D fait sous un logiciel de jeu vidéo. Je travaille beaucoup avec Benjamin Chavigné qui est. Donc lui, on appelait ça modéliste 3D, et c'est la troisième fois qu'on collabore ensemble. Et donc on travaille sur différents environnements. Là, en fait, notre but c'était de créer une nouvelle vision sur le bassin, et donc on a un point de vue qui serait plutôt par là. Une fois qu'on est plutôt au milieu de la scène, en fait, on a ces deux bassins qui continuent de ce côté-là. on se retourne, on a aussi ce bassin-là, qui est aussi noirâtre, aussi, sauf qu'il est lui-même en parpaing, mais recouvert de béton, donc c'est une autre étape. On a ces gravillons qui peuvent être les gravillons de la cour, en fait, de la cuisine. On l'a travaillé vraiment comme différentes dimensions d'un même univers. Et ces panneaux que l'on retrouve aussi dans le panneau lumineux qui va avec toute cette exposition. Qui...
D'accord. Et la tête coupée que vous me...
La tête coupée de Salomé. Ce sont en fait ce sont des dessins que j'ai refait d'une série que Cranach le jeune a fait de Salomé et la tête de Jean-Baptiste. Il en a fait 5 en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il travaille autant tout l'ornement de la robe de Salomé que quelque part le cou et les cheveux de Jean-Baptiste sont... Lui, il n'est que matière, il n'est que matière organique, alors que Salomé est de plus en plus orné d'apparats, de tissus, de boursouflures de tissus. Cette dichotomie entre les deux, ce contraste, me paraissait vraiment... moi, m'a beaucoup plu, surtout que j'adore faire des petits dessins minutieux. Donc, c'était un peu mon plaisir.
Qu'est-ce qui fait que une jeune fille caylusienne devient une artiste ?
C'est
un Caylus qui inspire.
Est-ce que Caylus inspire ? Non, enfin oui, il peut inspirer. En fait, en soi, c'est. Il faut savoir, j'ai fait 4 ans. J'ai fait 4 beaux-arts différents. J'ai fait 7 ans d'études. Je suis partie à l'université après. J'ai étudié beaucoup, beaucoup de choses dans beaucoup d'environnements différents. J'ai fait 8 mois en Allemagne aussi, qui est un enseignement différent de l'art. Et en fait, 2 ans après être sortie de l'école, je commençais à faire mon travail, mes maquettes. Et je me suis demandé, comment j'avais envie de continuer, en fait. Qu'est-ce que j'avais envie de faire avec ça, avec tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais envie de faire. Et je me suis posé la question aussi de ce qu'est un artiste, en fait, dans la société. Quel est son rôle, quelles sont ses différentes possibilités. Et donc, je suis rentrée dans mon village natal, chez mes parents, à Caylus. Et j'ai commencé un projet en parallèle de mon travail personnel, avec l'envie vraiment de faire participer les habitants à quelque chose qui serait l'invention d'un folklore, en fait, l'invention d'une nouvelle tradition, en considérant que toute leur culture à eux n'était pas moins valable que la mienne, avec un partage comme ça, autant sur eux, leur paysage, leur ciel même, comment ils analysent le ciel, comment pouvaient aller se balader, les grottes que j'avais jamais vues encore sur le territoire, et m'interroger autrement que quand j'étais ado à Caylus et que je m'ennuyais terriblement l'hiver. Là, je rentrais avec l'envie de découvrir vraiment l'histoire de Caylus, la géographie de Caylus, les gens et comment aussi sociologiquement, en fait, ce village pouvait être étudié. Et donc, j'ai commencé à créer des masques, des costumes. J'ai invité autant des amis artistes que des gens du village à participer. Donc, il y a un poète de Genève qui m'a écrit un texte à partir d'un conte qu'on a fait avec ici le Pays Midi-Quercy, avec... Madame Vessier, qui est venue animer un atelier d'écriture autour du Caylus Culture Club. À partir de ça, il y a donc ce poème. À partir de ce poème, il y a une musicienne de Caylus qui l'a mis en musique pour une hymne. Et là, le prochain, c'est un hymne de supporters. Donc ça va être différent, vraiment, mise en scène de ce chant. Ensuite, de ce chant est arrivé aussi des bannières sportives que une dame de Vendée est en train de coudre en patchwork, Carole Couder. Et voilà, tout ça, en fait, prend place et au long des collaborations, autant locales que de mon réseau à moi, autant du cinéma, parce que là, on a 2 cinéastes de Bordeaux qui arrivent demain pour travailler pour la performance pour le 4 février. Et qui vont mettre en scène, en fait, tous les habitués du bar du Lagardère qui, eux, porteront les masques, à qui Voilà, ils portent déjà les cuissons du Caylus Culture Club depuis quelques jours. Et voilà, c'est quelque chose qui prend forme comme ça au milieu de plein de possibilités, de découvertes et de rencontres.
Qu'il casse dans les sous-bois qu'il dévaste la nuit lorsque les jeunes filles dorment. Veux-tu pour chasser à mes côtés ce qu'il détruisait?
En fait, vous êtes devenu artiste pour partir loin de Caylus, et puis ça vous a fait y revenir.
Quoi. Exact. Mais en même temps, ça m'a fait y revenir. Et puis en fait, je pensais pas que le Caylus Culture Club allait prendre autant que ça, autant au sein du village qu'au sein du monde de l'art contemporain et du monde culturel au-delà du département. Voilà, ça a été exposé en Aquitaine. Là, il va y avoir une exposition qui va exposer les masques, l'exposition du FRAC Midi-Pyrénées qui va exposer les masques en février. Ça prend. J'étais partie, je suis revenue, et puis au final, ça fait 3 ans et demi maintenant que je mène ce projet en parallèle de mon travail, et on m'invite à plusieurs événements qui sont au-delà de Caylus. Au début, c'était ma famille qui portait les basques, et puis de plus en plus, j'ai des bénévoles, j'ai des volontaires, j'ai des gens qui sont très très différents et qui sont même pas caylusiens. Alors c'est voilà. Donc voilà, ça prend. On peut aussi participer sans être caylusien.
Salomé 3, Club 1, double vernissage pour exposition parallèle. Ce samedi 4 février, l'exposition Salomé 3 de Lou Andrea Lassalle sera visible à la cuisine Centre d'art et de design jusqu'au 14 mai. Toutes les infos sont sur le site internet de la cuisine, la-cuisine.fr.